Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de Partir un jour. Partir un jour, c'est un podcast mensuel dans lequel Aurélie et moi abordons chaque mois une destination, de l'idée qu'on s'en faisait avant le départ à l'expérience sur place, en passant par nos coups de cœur et nos conseils d'itinéraire. Bonjour Aurélie.
Bonjour Rémi.
Alors, à quoi on va s'intéresser dans cet épisode ?
Alors dans cet épisode, on va continuer notre découverte de l'ouest des USA avec la prochaine étape de notre road trip, la Vallée de la Mort. To the town of our free rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. Pour moi, la Vallée de la Mort, c'était une de mes grandes attentes lors de notre voyage dans l'ouest des USA. Bah, il suffit de faire une petite recherche sur le sujet pour se rendre compte que les paysages ont l'air tous assez fous dans ce coin-là. Et après coup, je dois dire que la Vallée de la Mort, la Death Valley en version originale, a largement surpassé mes attentes, qui pourtant étaient déjà bien hautes avant le départ. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur qu'en ayant autant d'attentes du lieu, d'être déçue, et pas du tout. Ça a été au-delà de ce que j'espérais. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. J'ai été très impressionnée que malgré le fait qu'on soit dans un environnement aride et vide, il y a une telle diversité au niveau des paysages. On roule 5 minutes et on est dans un endroit complètement différent, c'est assez fou. Mais j'étais également surprise parce que si c'est effectivement aride et vide et on ne voit pas grand-chose, la vie n'est pas absente et je m'attendais vraiment à une étendue lunaire de cailloux à perte de vue et dans de nombreux endroits, en fait, c'est recouvert de petits buissons. Ces petits buissons secs qui arrivent à survivre dans ces lieux complètement improbables, bah, ils sont là et ils sont vraiment bien présents. Par contre, j'étais bien contente qu'on y soit en octobre et pas au cœur de l'été parce que quand on y était, il faisait déjà bien bien chaud et j'ose pas imaginer en été ce que ça doit donner. Et à mon avis, ça doit être assez invivable si j'en crois les nombreux panneaux qui recommandent de ne pas marcher après 10h du matin dans divers sites. Ben, le ton est donné, après 10h, il fait trop chaud, on ne peut plus rien faire. D'ailleurs, la Vallée de la Mort a toute une partie de sa com basée sur le fait que la température la plus chaude sur Terre a été enregistrée là-bas. Ce qui rajoute un petit peu au mythe du lieu. Maintenant, je ne sais pas toi ce que tu en as pensé.
Moi, la Vallée de la Mort, j'en connaissais le nom et la réputation avant d'y aller, mais c'était à peu près tout. Ah si, je savais que plusieurs endroits là-bas avaient servi de lieu de tournage pour plusieurs épisodes de Star Wars. Mais à part ça, j'imaginais une plaine désertique qu'on se contenterait de traverser en voiture en essayant de ne pas mourir de chaud. Je pense que j'avais vraiment cette image tirée de Lucky Luke, d'un désert où on trouve finalement que quelques ossements. Au final, la réalité est tout autre, puisque, comme le nom l'indique, c'est une vallée, elle est entourée de montagnes, et donc on en voit bien les limites. On n'est jamais vraiment perdu au milieu de nulle part, il y a toujours ce point de repère à l'horizon. Et comme tu l'as dit, les paysages sont très diversifiés. On passe des dunes de sable à une plaine de sel ou aux montagnes colorées. Je ne m'attendais pas à trouver autant de choses à voir, finalement, dans un endroit qu'on appelle la Vallée de la Mort. Et j'ai vraiment adoré la journée qu'on y a passée, la journée et demie. C'est vraiment un endroit à la hauteur du mythe qui l'entoure.
Et toi qui trouvais l'endroit joli ?
En général, quand on aborde un lieu, on parle de nos coups de cœur. Bah pour moi, ici, ça va être très compliqué parce que au sein de la Vallée de la Mort, j'ai simplement tout adoré. À chacune de nos haltes, j'ai été soufflée par ce qu'on voyait. Les paysages sont vraiment dingues où qu'on aille. Et personnellement, j'arriverai pas à en mettre un devant l'autre.
Je suis assez d'accord, toute la vallée vaut le coup. Mais pour moi, s'il fallait vraiment conseiller un arrêt, je pense que ce serait Badwater Basin, ce lac de sel qui s'étend à perte de vue et sur lequel on a marché. C'était vraiment une expérience incroyable. Le paysage a quelque chose de magnifique, comme ça, un peu lunaire, et on a presque l'impression d'être sur une autre planète. Mais par contre, il faut le mériter, parce que même si on était là-bas en automne, il peut faire chaud. Nous, le soleil était à son zénith quand on est arrivé sur cette étendue blanchâtre. Et je ne sais pas si on peut imaginer la chaleur accablante qui vous tombe dessus quand on est là-bas. On s'est motivé à aller le plus loin possible, mais il y avait vraiment de quoi avoir envie de faire demi-tour. Il y avait quelque chose d'un peu mystique à imaginer ceux qui ont été les tout premiers à traverser la Vallée de la Mort et qui ont pu peut-être y rester. Donc mon conseil, si vous allez jusque-là, n'oubliez surtout pas d'emmener avec vous au moins un litre d'eau.
Un dromadaire et il est mort de...
Mort de soif, naturellement.
Le pays de la soif, le pays de la soif.
It's a long road to the valley, headed westward from the boulevard.
Notre visite de la vallée de la mort a en fait commencé un petit peu avant d'arriver dans la vallée elle-même. On roulait déjà dans ces paysages désertiques et on montait sur un premier relief en direction de la vallée. Et on voit sur le bord de la route un parking avec quelques voitures arrêtées, le tout devant un petit canyon. On s'est dit qu'on était assez tôt, pourquoi ne pas s'arrêter pour aller faire un tour à cet endroit ? Visiblement il y avait du monde, donc on s'est dit bah, y a du monde, y a peut-être un point de vue à aller admirer. Pourquoi ne pas faire un arrêt 5 minutes ? De toute façon, on est assez tôt dans la journée, on peut se le permettre. On a ainsi découvert Rainbow Canyon, un canyon qui n'est même pas sur Google Maps. Un canyon assez joli, assez coloré. On en a vu des beaucoup plus beaux par après, mais c'était le premier qu'on appréhendait. Il nous a bien plu. C'est juste que, au bout d'un moment, à force de le regarder, j'ai commencé à me dire qu'il ressemblait vachement à un canyon que j'avais vu dans une vidéo en préparant le voyage, dans lequel des avions de chasse passaient pour s'entraîner, et j'ai juste eu le temps de terminer cette anecdote qu'on a entendu un bruit absolument énorme. Les enfants ont été assez surpris et la plus jeune un peu terrifiée, et on a vu ces fameux avions de chasse passer devant nous à hauteur de regard dans le canyon pour une vision assez impressionnante.
Oui, il faut savoir que le Rainbow Canyon sert comme ça de terrain d'entraînement donc à l'armée de l'air. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas sur Google Maps. Et ça donne un spectacle très impressionnant, les avions passent vraiment tout près. Et on est resté là encore quelques minutes, il y avait des gens qui étaient là, manifestement, qui restaient là la journée avec leur appareil photo pour les prendre en photo à chaque fois qu'ils passaient. Bon, nous, finalement, on est quand même reparti, on a repris la route. Notre premier arrêt, ça a forcément été l'hôtel. C'était le dernier motel qui était situé avant d'entrer dans la vallée de la mort. Et comme pour Yosemite, on s'est dit que comme la journée n'était pas encore terminée, on allait en profiter pour faire un premier tour dans le parc national. Et on a franchi les derniers kilomètres qui nous séparaient de Death Valley. Pour aller voir le premier point de vue qui s'appelle Mesquite Sand ou Mesquite Sand, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Et on s'est dit qu'on allait y voir le coucher du soleil. C'est vraiment l'endroit de la vallée de la mort où on trouve du sable. On avait vendu au lutin le désert. Lui, s'il imaginait un désert de sable, c'est le seul endroit où on avait vraiment pu lui montrer un désert de sable. Il y a des dunes un peu comme ça à perte de vue. On peut s'y promener librement, même si c'est là qu'on a vu le premier panneau qui nous disait « Attention, ne pas s'y aventurer après 10h du matin ». Parce qu'effectivement, il devait commencer à y faire chaud. Bon, après, nous, il était après 16h, donc c'était largement supportable. On a laissé les enfants se rouler dans les dunes. Nous, on a profité des paysages pendant que le soleil se couchait. C'était vraiment, vraiment chouette. Une fois que le soleil est couché, on est reparti au motel et on y a passé la nuit.
Le lendemain matin, donc, on a repris la direction de la vallée de la mort, cette fois-ci dans l'optique d'y passer la journée. Notre premier arrêt, ça a été au Visitor Center pour rapidement faire les General Ranger Book. Ensuite, on a pris la direction de Bedwater Basin, qui est le point le plus bas des USA et qui est également l'endroit où a été enregistrée cette fameuse température record de 56 degrés Celsius. Comme tu l'as déjà expliqué, il s'agit d'un ancien lac de sel asséché, duquel il ne reste plus qu'une immense étendue de sel. Donc en partant du parking, il y a un espèce de petit sentier de sel à suivre sur environ 300-400 mètres à effectuer avant d'atteindre le lac à proprement parler. Et ces 400 mètres sont assez interminables et on fatigue vite en marchant dedans. En plus, j'avais gardé mes tongs, erreur de débutante, ça faisait atrocement mal aux pieds. J'ai fini à pieds nus dans le sel. Alors ça, c'était assez rigolo pour le coup, parce que vu la chaleur qui règne, je m'attendais à me brûler les pieds par terre. Mais en fait non, le sel c'est blanc et donc ça ne prend pas la chaleur et c'était même plutôt frais de marcher sur le sel et même agréable.
Le lac de sel en lui-même est constitué d'une succession de formes un peu hexagonales qui sont créées par le sel. C'est ça qui donne aussi au lieu son charme et son côté toujours un peu lunaire.
C'est assez impressionnant cette étendue qui semble pas infinie parce qu'on a les montagnes effectivement qui rappellent les limites, mais quand on est au milieu, on n'a aucune notion au milieu de cette étendue plate de quelles sont les distances, à quel point ce lac est étendu. Il a l'air absolument immense, on se sent un peu perdu et petit au milieu. En repartant, on a pris une route qui fait un petit détour par rapport à la route principale, la Artist Drive, ce qui permet d'aller admirer la Artist Palette. Les noms sont très originaux. Il s'agit en fait d'une partie de la vallée où les montagnes ont pris des couleurs très bigarrées et assez marquées.
On a du bleu, on a du vert, on a bien sûr de l'orange et du ocre. C'était pas forcément super marqué, je trouve, là, au premier arrêt où on s'est arrêté. Mais par contre, sur tout le reste du détour qui constituait Artist Drive, on a eu l'occasion d'en voir un peu d'autres. Et c'est vrai que là, par contre, il n'y avait pas des arrêts qui étaient possibles en voiture, il fallait qu'on continue. Mais on roulait vraiment tout doucement pour voir les couleurs sur la roche, et c'était vraiment beau.
Ce sont des couleurs qui sont totalement naturelles. Ce n'est pas des roches qui ont été peintes, c'est vraiment la présence de certains minerais et composants dans la roche qui donne à cet endroit toutes ces couleurs qui sont assez folles. Ensuite, nous avons pris la direction des Zabriskie Point, qui est un point vraiment très très connu et très fréquenté de la Vallée de la Mort. Je pense que c'est un point qui est vraiment très accessible depuis Las Vegas, donc il accueille beaucoup de visiteurs de par sa situation. Donc Zabriskie Point, c'est un point de vue qui donne sur une zone de la Death Valley connue pour son paysage qui est très érodé. Donc on a cette roche partout où on regarde qui a été creusée par l'eau, qui a une espèce de forme de vaguelette. C'est très particulier et comme partout ailleurs dans la vallée, très beau. On se répète, mais à chaque fois, c'était beau.
C'était des paysages vraiment façonnés par la nature et qui étaient particulièrement marquants. Comme l'heure avançait et qu'on devait encore faire la route pour aller jusqu'à Las Vegas par après, on a repris notre itinéraire pour nous rendre jusqu'à Dante's View, l'un des derniers points de vue en fait quand on prend cette direction-là. Et peut-être le point de vue le plus impressionnant puisque c'est celui qui donne accès à un panorama sur une grande partie de la vallée, au moins toute la partie sud.
Oui, toute la partie sud, la partie qu'on a faite en fait. La partie nord, on n'a pas été.
Il faut quitter la route principale pour y arriver et suivre une petite route qui grimpe pendant une vingtaine de kilomètres. Plus on avance, plus ça monte. On s'est même demandé à un moment si notre monospace allait réussir à atteindre le sommet, mais finalement on y arrive, il y a un parking, comme à chaque point de vue qui est prévu dans la vallée de la mort. Et la vue au sommet vaut vraiment de faire ce détour. On arrive donc à presque 1700 mètres d'altitude et Dante's View surplombe la vallée. On pouvait y voir tout en bas le lac de sel de Badwater Basin et c'était impressionnant de voir cette petite zone qui nous avait paru tellement énorme quand on était au milieu, qui se résumait à une tache de la taille de notre main quand on était là-haut.
Oui, ce qui était assez incroyable, c'est que quand on était au bout de ce chemin de sel et qu'on atteignait le lac, on avait l'impression d'être au milieu de la vallée. Et quand on regarde ce point depuis Dante's View, en fait, on n'avait même pas fait 10% de la largeur de la vallée. On était nulle part. Et avec cette perspective qui est complètement faussée dans ce lac de sel, on se serait cru beaucoup plus avancé. Et ce qui est également très beau à voir depuis ce point de vue, c'est ce sel qui est blanc et qui tranche avec le sol très foncé de la vallée et qui crée des motifs abstraits suivant les écoulements d'eau qu'il y a eu. C'est la nature fait de l'art.
C'est vraiment ça, la vallée de la mort, c'est vraiment ça.
On a ensuite repris la voiture en direction de Las Vegas, qui était la prochaine étape de notre road trip.
Je les ai semés au milieu du désert. Avec de la chance, il leur faudra 3 jours pour rentrer chez eux.
Nous allons maintenant vous parler un petit peu de nos conseils pratiques pour visiter la Vallée de la Mort. Comme on l'a déjà dit, la Death Valley est réputée pour être un endroit très chaud. Selon le moment de votre visite, il faudra vraiment faire très attention à ce point. Les températures peuvent vite devenir assez problématiques, surtout en été où il est conseillé d'éviter les marches et les efforts physiques passé 10 heures du matin. Donc vous allez voir des panneaux vous invitant à ne pas vous promener sur certains lieux passé 10 heures du matin, et je pense vraiment que quand on voit les températures qu'on a eues en octobre alors qu'il était supposé commencer à faire frais, j'ai vraiment aucun mal à imaginer qu'en été, en pleine journée, ça doit être complètement invivable. Donc évidemment, qui dit sécheresse et soleil dit déshydratation, donc pensez toujours à avoir de l'eau sur vous en suffisance. Nous, on avait des cubis pour remplir nos gourdes dans la voiture au cas où on ne trouvait pas d'eau. Il y a la possibilité de recharger sa gourde au Visitor Center, mais ce n'est pas toujours le cas sur les parkings des différents points d'intérêt. Donc pour vous donner une idée, nous, en automne, le thermomètre a sans aucun problème dépassé la barre des 30 degrés. C'est un point qui est mis en avant même au Visitor Center, mais la chaleur est vraiment un élément à prendre en compte et avec lequel il ne faut pas rigoler.
Je crois qu'au Visitor Center, ils mettent aussi en garde contre la faune qui est parfois présente dans le parc, que ce soit scorpion ou le serpent. Maintenant, nous, on n'a rien vu du tout, donc je ne pense pas que ce soit vraiment problématique. Il faut juste très bien rester sur les chemins. C'est comme dans tous les parcs nationaux, il faut éviter de s'aventurer hors des chemins et de respecter la nature qui est autour de soi. Que ce soit à Arsis Palette ou à Zabriskie Point, il ne faut pas commencer à escalader les rochers, il faut respecter le lieu, enfin, c'est la base, quoi. Au point de vue du logement, nous, on a logé au motel de Panamint Spring. Il faut savoir que Panamint Spring, donc c'est le dernier motel vraiment avant d'entrer dans le parc. Et ça se limite en fait à l'hôtel en lui-même, qui est composé d'un restaurant et d'une pompe à essence. Il y a moyen d'acheter de quoi se ravitailler un petit peu, mais pas beaucoup plus. Au niveau de la pompe à essence, vous pouvez faire le plein là. Nous, on a fait le plein plus loin, une fois rentré dans la vallée de la mort, à Furnace Creek. C'était pas plus cher, donc pas forcément besoin de faire le plein à Panamint Spring. Le tout, c'est de faire quand même attention à pas tomber en panne sèche une fois en plein milieu de la vallée, mais ça, il y a moyen de prévoir. On avait vu quelques témoignages qui conseillaient de loger un peu avant, à Lone Pine, mais ça faisait quand même plus loin pour ensuite faire la route jusque-là, et donc on a préféré mettre les quelques dollars en plus pour loger à Panamint Spring. Les prix sont un peu plus élevés qu'ailleurs, mais franchement, ça reste raisonnable. Comparé à ce qu'on a pu trouver dans les parcs comme Yosemite, c'est pas comparable, et le service était plutôt bon. C'est un bon rapport qualité-prix.
Sachant aussi que depuis le motel, on avait déjà une demi-heure de route pour rejoindre le parc. Donc depuis Lone Pine, je pense qu'on était à 1h-1h30. Et quand on sait qu'il faut essayer de réaliser la plupart de ces visites avant 10h du matin, 1h30 de route en plus, ça joue beaucoup. Je pense que c'est un élément à prendre en compte. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre quelques dollars en plus et loger vraiment près de la vallée que perdre un temps de visite qui est très précieux?
On avait également vu des témoignages qui parlaient de camping, mais ça, on n'en a vu aucun sur notre route. À Panamint Spring, outre le motel, c'est vrai qu'il y a des tentes dans lesquelles il est possible de dormir, mais c'est vraiment tout ce qu'on a vu.
Une fois qu'on a quitté Panamint Spring, dans le cas où, comme nous, vous arrivez de l'ouest, évidemment, le seul point dans la vallée où vous pourrez manger ou vous ravitailler, c'est Furnace Creek, qui est vraiment le point central de la vallée. Nous, comme on savait qu'on n'allait pas du tout repasser par là, par après, on a choisi l'option d'acheter des sandwichs tout faits. On a laissé tomber l'idée de faire nos sandwichs nous-mêmes, c'était pas viable. Si vous comptez manger ailleurs dans la vallée, sachez qu'il faut penser à prendre de quoi vous nourrir parce que vous ne trouverez plus rien plus loin.
Il n'y a même pas de table de camping, de quoi se poser pour manger, on n'a rien vu, du coup on a mangé dans la voiture. C'est un peu pareil au niveau des toilettes. Les toilettes, y en a un peu à tous les parkings de points d'intérêt. C'est des toilettes sèches. Du coup, comme il y a beaucoup de visiteurs qui viennent chaque jour explorer la vallée, c'est parfois un peu insuffisant et parfois un peu limite au niveau propreté, mais c'est quand même bienvenu. Un autre point qu'on peut aussi aborder, c'est au niveau de la connectivité et du réseau téléphonique. Comme dans les autres parcs nationaux, faut pas compter sur la 4G une fois que vous êtes à l'intérieur de la Death Valley. On capte plus rien et donc si vous avez besoin d'un GPS, prévoyez toujours un GPS hors ligne, c'est préférable.
Bon, après, faut savoir que dans la vallée de la mort, il y a deux routes. Donc, pour peu que vous ayez pris le plan au Visitor Center, normalement, vous devrez vous en tirer.
T'as l'air d'avoir un gros appétit. Faut emporter des casse-croûtes quand on se tire dans le désert. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain.
Alors, est-ce qu'on y retournerait? C'est difficile à dire parce que la vallée de la mort, c'est vraiment un endroit que les mots ne peuvent pas forcément décrire. Du coup, je ne sais pas si tout ce qu'on vient d'en dire peut vraiment vous permettre de vous représenter à quel point c'est un endroit si pas magique, assez grandiose. Et c'est difficile de lui rendre justice. Mais en même temps, j'ai pas vraiment de regrets. Je trouve qu'on a vraiment fait pas mal des points d'intérêt principaux du lieu. Et j'ai profité pleinement de la journée et demie qu'on y a passé. En fait, j'ai vraiment pris mon pied là-bas, on en a eu plein les yeux. Et même si ça me déplairait pas d'y retourner, j'en ressens pas particulièrement le besoin.
Je suis assez d'accord avec toi, la vallée de la mort, ça a été un des gros points forts de notre road trip. Mais je pense effectivement qu'on en a vu une bonne partie, et surtout ce qu'on a vu, c'était vraiment les points les plus importants. Maintenant, je regrette un peu qu'on n'ait pas pu aller au Devil's Golf Course, qui est une autre partie du lac de sel avec des formations un petit peu plus développées.
Qui ressemble un peu à des espèces de pics, en fait. C'est comme un ensemble de pics de roches, enfin de pics de sel, en fait, qui forment un espèce de tapis de fakir.
Oui, c'est ça, c'est un petit peu l'idée. Et apparemment, c'est quelque chose à voir. Maintenant, la piste pour y aller, c'est une piste de 2 km dans la terre. Donc avec notre monospace, on n'a pas trop osé y aller. Et aucun de nous se sentait honnêtement de rouler là-dessus. Et également avec les enfants avec nous, sachant que ces structures de sel sont vraiment très pointues et très solides, on avait un petit peu peur qu'il y ait assez vite un accident. Donc on n'a pas fait les tours, on est passé à côté, mais on n'y est pas allé. J'aurais également bien aimé avoir le temps d'aller un petit peu plus du côté nord, voir Rest Track Playa, qui est une plaine où des énormes rochers se déplacent en laissant des traces derrière eux. Et on ne sait pas comment ils se déplacent en fait, les scientifiques n'ont pas encore trouvé l'explication. Donc c'est un endroit un petit peu mystique comme ça. Mais je ne pense pas que ces visites qu'on n'ait pas faites justifient réellement une vraie envie d'y retourner. Je pense que si un jour je suis amenée à repasser à proximité, il y a de fortes chances que je tente de faire un détour par la vallée, ne serait-ce même que pour revoir ce qu'on a vu. C'est vraiment, enfin, la nature est capable de faire des choses absolument grandioses. Comme tu l'as dit, c'est difficile avec des mots de rendre justice à ces paysages, mais ils sont vraiment marquants et quand on y est, on se sent petit face à la nature et à ce qu'elle est capable de créer. C'est vide, c'est sans vie et pourtant c'est magnifique. Donc si je repasse à proximité et que j'ai le temps d'y refaire un détour, pourquoi pas ? Mais je ne pense pas qu'il y ait nécessité de refaire un voyage spécialement pour y retourner.
C'est vrai que c'est un des premiers paysages où on s'est dit que c'était incroyable ce que pouvait faire la nature, mais c'est certainement pas le dernier paysage où on se l'est dit. D'ailleurs, on abordera d'autres parcs comme ça dans les prochains épisodes de Partir un jour. Mais ici, c'est déjà la fin de notre évocation de la Vallée de la Mort. J'espère que vous avez apprécié passer ces quelques minutes en notre compagnie. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, que ce soit via iTunes ou via le flux RSS. On est aussi maintenant sur Spotify. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires ou vos questions sur nos blogs respectifs. Moi, c'est sur noteauvoyageur.eu. Aurélie, toi, c'est sur
sous-de-puce.fr avec des tirets.
Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode le mois prochain, un épisode qui portera sur la ville de tous les péchés, Las Vegas. D'ici là, bon voyage.
Bon voyage.
Vous pouvez également aussi nous laisser vos commentaires. Vous pouvez également aussi nous laisser nos Vous pouvez aussi également vous laisser. Non plus.
1000 personnes peuvent laisser un.